Première partie, au milieu de l'hiver. Mardi 20 décembre. Chapitre 1, le syndrome de Paris. Paris is always a good idea. Audrey Hepburn. 1. Roissy-Charles de Gaulle, zone des arrivées. Une certaine définition de l'enfer sur Terre. Dans la salle de contrôle des passeports, des centaines de voyageurs s'agglutinaient en une file d'attente congestionnée qui s'étirait et serpentait comme un boa obèse. Gaspard Coutances leva la tête en direction des cabines en plexiglas alignées 20 mètres devant lui. Derrière l'enfilade de guichets, il n'y avait que deux malheureux policiers pour contrôler le flux débordant des passagers. Gaspard eut un soupir d'exaspération. Chaque fois qu'il mettait les pieds dans cet aéroport, il se demandait comment les responsables publics pouvaient ignorer les effets dévastateurs d'une vitrine aussi détestable de la France. Il avala sa salive. Pour ne rien arranger, il faisait une chaleur à crever. L'air était moite, pesant, saturé d'une épouvantable odeur de transpiration. Gaspard prit place entre un adolescent au look de motard et un groupe d'Asiatiques. La tension était palpable. En plein décalage horaire après un vol de 10 ou 15 heures, des passagers au visage de zombies découvraient avec colère qu'ils n'étaient pas au bout de leur chemin de croix. Le calvaire avait commencé juste après l'atterrissage. Son vol, en provenance de Seattle, était pourtant arrivé à l'heure, l'avion s'était posé un peu avant 9 heures du matin, mais il avait fallu attendre plus de 20 minutes que l'on déploie la passerelle avant de pouvoir quitter l'appareil. S'était ensuivi une marche sans fin dans des couloirs vieillots, un jeu de pistes horripilant à débusquer des panneaux de signalisation compliqués, à se casser les jambes sur des escalators en panne, à lutter pour ne pas se laisser broyer les os dans une navette bondée, pour enfin être parqués comme des bestiaux dans cette salle sinistre. Bienvenue en France. Son sac de voyage sur l'épaule, Gaspard transpirait à grosses gouttes. Il avait l'impression d'avoir déjà parcouru 3 kilomètres depuis qu'il avait quitté l'avion. Abattu, il se demanda ce qu'il foutait là. Pourquoi s'infligeait-il chaque année un mois d'enfermement à Paris pour écrire sa nouvelle pièce de théâtre? Il eut un rire nerveux. La réponse était simple et claquait comme un slogan. Technique d'écriture en milieu hostile. Tous les ans, à la même date, Karen, son agent, lui louait une maison ou un appartement dans lequel il pouvait travailler au calme. Gaspard détestait tellement Paris, et à la période de Noël en particulier, qu'il n'avait aucun mal à rester cloîtré 24 heures sur 24. Résultat, la pièce s'écrivait toute seule, ou presque. En tout cas, à la fin janvier, son texte était toujours terminé. La file se résorbait avec une lenteur désespérante. L'attente devenait épreuve. Des gamins surexcités faisaient la course entre les barrières en hurlant. Un couple de personnes âgées se tenait l'une à l'autre pour ne pas s'effondrer. Un bébé vomissait son biberon dans le cou de sa mère. « Putain de vacances de Noël !» se lamenta Gaspard en prenant une grande goulée d'air vicié. En remarquant le mécontentement sur le visage de ses compagnons d'infortune, il se rappela un article qu'il avait lu dans un magazine à propos du « syndrome de Paris ». Chaque année, plusieurs dizaines de touristes japonais et chinois étaient hospitalisés, et souvent rapatriés, à cause des troubles psychiatriques lourds qui les frappaient lors de leur première visite dans la capitale. À peine débarqués en France, ces vacanciers se mettaient à souffrir de drôles de symptômes, délire, dépression, hallucinations, paranoïa. Avec le temps, les psychiatres avaient fini par trouver une explication. Le malaise des touristes venait du décalage entre leur vision sublimée de la ville lumière et ce qu'elle était vraiment. Ils croyaient découvrir le monde merveilleux d'Amélie Poulain, celui vanté dans les films et les publicités, et ils découvraient à la place une ville dure et hostile. Leur Paris fantasmé, celui des cafés romantiques, des bouquinistes des bords de Seine, de la butte Montmartre et de Saint-Germain-des-Prés, venait se fracasser contre la réalité. La saleté, les pickpockets, l'insécurité, la pollution omniprésente, la laideur des grands ensembles urbains, la vétusté des transports publics. Pour penser à autre chose, Gaspard sortit de sa poche plusieurs feuilles pliées en quatre. Le descriptif et les photos de la prison dorée que son agent lui avait louée dans le 6e arrondissement. L'ancien atelier du peintre Sean Lawrence. Les clichés étaient séduisants et laissaient espérer un espace ouvert, clair, reposant, parfait pour le marathon d'écriture qui l'attendait. D'ordinaire, il se méfiait des photos, mais Karen avait visité les lieux et elle lui avait assuré qu'il lui plairait. Et même davantage, avait-elle ajouté, mystérieuse. Vivement qu'il y soit, en tout cas. Il patienta encore un bon quart d'heure avant qu'un des flics de la police aux frontières consente à jeter un œil à son passeport. Aimable comme une porte de prison, le type ne lui adressa ni bonjour ni merci, et ne répondit pas à son « bonne journée » en lui rendant ses papiers d'identité. Nouvelle perplexité devant les panneaux. Gaspard prit la mauvaise direction avant de revenir sur ses pas. Cascade d'escaliers mécaniques, succession de portes automatiques qui s'ouvraient toujours à retardement, il se hâta de dépasser les tapis roulants. Dieu merci, il n'avait pas été assez inconscient pour enregistrer des bagages. À présent, il n'était plus très loin de la sortie de l'enfer. Il batailla pour s'extraire de la cohue inhabituelle qui bloquait le hall des arrivées, fendit la foule, bousculant un couple qui s'embrassait, enjambant des passagers endormis à même le sol. Dans son viseur, la porte à tambour surmontée du panneau « Sortie, taxi » matérialisait la fin de son supplice. Voilà, plus que quelques mètres et il serait libéré de ce cauchemar. Il prendrait un taxi, coifferait son casque, et s'échapperait mentalement en écoutant le piano de Brad Meldo et la basse de Larry Grenadier. Puis, dès cet après-midi, il commencerait à écrire et il... La pluie doucha son enthousiasme. Des trombes d'eau s'abattaient sur le bitume. Un ciel charbonneux. Une tristesse et une électricité dans l'air. Aucun taxi à l'horizon. À la place, des cars de CRS et des passagers désorientés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il à un bagagiste qui fumait sa clope stoïque près d'un cendrier sur pied. « Vous êtes pas au courant ? C'est la grève, monsieur !» 2. Au même moment, gare du Nord, Madeleine Green descendait de l'Eurostar de 9h47 en provenance de Londres. Ses premiers pas sur le sol français furent hésitants. La jeune femme avait du mal à trouver ses marques. Ses jambes étaient lourdes, flageolantes. À la fatigue s'ajoutaient des vertiges, une nausée lancinante et des remontées acides qui lui brûlaient l'œsophage. Le médecin avait eu beau la prévenir des effets secondaires de son traitement, elle n'avait pas imaginé passer Noël en si petite forme. La valise qu'elle traînait derrière elle semblait peser une tonne. Déformée, amplifiée, le bruit des roulettes sur le sol bétonné résonnait dans sa tête, et venait érailler son crâne, intensifiant la migraine qui la tourmentait depuis son réveil. Madeleine s'arrêta soudain pour remonter entièrement la fermeture éclair de son blouson de cuir doublé de peau de mouton. Elle était en nage, mais elle frissonnait. Le souffle court, elle crut un moment qu'elle allait défaillir, mais elle retrouva un peu de force en arrivant en bout de quai, comme si l'effervescence qui régnait dans le terminal la stimulait et la reconnectait presque instantanément à la vie. Malgré la réputation peu flatteuse de la gare du Nord, Madeleine avait toujours été fascinée par cet endroit. Là où d'autres voyaient du désordre et de la peur, elle percevait un concentré d'énergie brute et contagieuse. Plutôt qu'une cour des miracles, une ruche en perpétuel mouvement. Des milliers de vies, de destins qui se croisaient, tissant une toile d'araignée gigantesque. Un flux tendu, enivrant, une déferlante qu'il fallait savoir dompter pour ne pas se noyer. La gare lui apparaissait surtout comme une scène de théâtre, investie par des milliers d'acteurs. Touristes, banlieusards, hommes d'affaires, zonards, flics en patrouille, vendeurs à la sauvette, dealers, employés des cafés et des commerces alentours. En observant ce monde miniature chapeauté par la grande verrière, Madeleine songea à l'une de ces boules à neige que lui rapportait sa grand-mère chaque fois qu'elle revenait de voyage. Une boule gigantesque, bourdonnante, dépourvue de ses paillettes en plastique et qui se fissurait sous le poids du nombre. Elle débarqua sur le parvis pour être accueillie par une rafale. Côté météo, c'était encore plus pourri que Londres. Une pluie drue, un ciel sale, un air humide et tiédasse. Comme le lui avait annoncé Takumi, plusieurs dizaines de taxis bloquaient l'accès à la gare. Ni les bus, ni les voitures ne pouvaient charger de voyageurs, renvoyant les passagers à leur galère. Devant une caméra de télévision, les esprits s'échauffaient. Grévistes et usagers rejouaient la sempiternelle séquence qu'affectionnaient les journaux et les chaînes d'infos. Madeleine s'empressa de contourner le groupe. « Pourquoi n'ai-je pas pensé à prendre un parapluie ?» se maudit-elle en traversant en direction du boulevard de Magenta. Marchant trop près du bord du trottoir, elle fut éclaboussée quand une voiture roula dans une flaque d'eau. Trempée et furieuse, elle descendit la rue Saint-Vincent-de-Paul jusqu'à l'entrée de la paroisse. Là, au volant d'une fourgonnette garée en double fil, Takumi était alors au rendez-vous. Son estafette bariolée était ornée d'une inscription joyeuse qui contrastait avec la grisaille alentour. « Le jardin extraordinaire, fleuriste, 3 bis rue de l'Ambre, 75014 Paris. » En l'apercevant, Madeleine lui fit un grand signe avant de se précipiter à l'intérieur de l'habitacle. « Hello Madeleine, bienvenue à Paris !» l'accueillit le fleuriste en lui tendant une serviette.
« Salut mon vieux, ça me fait plaisir de te voir !»
Elle se sécha les cheveux en détaillant le jeune Asiatique. Takumi portait les cheveux courts, une veste de velours côtelé et un foulard de soie. Une casquette à carreaux en flanelle coiffait le haut de sa tête ronde et laissait échapper deux petites oreilles décollées qui le faisaient ressembler à un sourisseau. Son visage était barré d'une moustache clairsemée, plus proche de celle d'un ado à peine pubère que de celle de Thomas Magnum. Il n'avait pas du tout vieilli depuis qu'elle avait quitté Paris en lui cédant la jolie boutique de fleurs où elle l'avait embauché quelques années auparavant.
« C'est chouette d'être venu me chercher, merci »,
dit Madeleine en bouclant sa ceinture.
« De rien, tu aurais galéré aujourd'hui dans les transports. »
Le jeune fleuriste enclencha une vitesse et s'engagea rue d'Abbeville.
« Comme tu le vois, rien n'a changé dans ce pays depuis que tu es parti »,
affirma-t-il en désignant le groupe de manifestants.
« Chaque jour, ça devient même un peu plus morose. »
Les essuie-glaces de la vieille Renault peinaient à évacuer les rigoles de pluie qui se déversaient sur le pare-brise. Malgré la nausée qui l'assaillait de nouveau, Madeleine s'efforça de lancer la conversation.
« Alors, comment va la vie? Tu ne prends pas de vacances pour Noël? Pas avant la fin de la semaine prochaine. On partira fêter le nouvel an dans la famille de Marjolaine. Ses parents possèdent une distillerie dans le Calvados. Si tu tiens toujours aussi mal l'alcool, ça promet. »
Le visage du fleuriste vira au pourpre. « Toujours susceptible, le Takumi, » s'amusa Madeleine, en regardant par la fenêtre le paysage qui se liquéfiait. La camionnette arriva boulevard Haussmann et continua sur 500 mètres avant de tourner rue Tronchet. Malgré les trombes d'eau, malgré les effets du mauvais climat social, Madeleine était contente d'être ici. Elle avait aimé vivre à Manhattan, mais elle n'avait pas été capable d'y capter cette prétendue énergie tant vantée par certaines de ses amies. En fait, New York l'avait épuisée. Sa ville fétiche resterait toujours Paris, car c'était là où elle revenait pour panser ses blessures. Elle avait vécu ici pendant 4 ans. Pas forcément ses plus belles années, mais en tout cas, les plus importantes. Des années de résilience, de reconstruction, de renaissance. Jusqu'en 2009, elle avait travaillé en Angleterre, à la brigade criminelle de Manchester. Là, une enquête épouvantable dont elle avait la responsabilité, l'affaire Alice Dixon, l'avait brisée et forcée à quitter la police. Cet échec lui avait fait tout perdre, son métier, le respect de ses collègues, sa confiance en elle. À Paris, elle avait repris un petit commerce de fleurs et refait sa vie dans le quartier de Montparnasse, loin des enquêtes de meurtre ou de disparition d'enfants. Cette vie plus calme avait de nouveau pris un tournant radical lorsqu'une rencontre l'avait orientée sur une piste inattendue et lui avait permis de reprendre l'enquête qui avait saccagé sa vie. Finalement, l'affaire Alice Dixon avait connu un épilogue heureux à New York. Les circonstances de ce succès lui avaient donné l'occasion d'entrer dans les services administratifs du WITSEC, le programme fédéral de protection des témoins. Elle avait laissé sa boutique de fleurs à Takumi et s'était envolée pour New York. Un an plus tard, Le NYPD, la police new-yorkaise, lui avait proposé un contrat de consultante dans son service dédié aux affaires classées. Madeline avait pour mission de porter un regard neuf sur certaines vieilles enquêtes non résolues. Le genre de job qui aurait été excitant dans une série télé ou dans un polar de Harlan Coben, mais qui dans la réalité s'était révélé n'être qu'un travail de bureau d'un ennui abyssal. En 4 ans, Madeline n'avait pas mis une seule fois le pied sur le terrain. Elle n'avait pas non plus réussi à faire rouvrir la moindre enquête. Le service dont elle dépendait manquait de moyens et se heurtait à une bureaucratie qui aurait fait rougir l'administration française. Toute demande d'analyse ADN nécessitait de remplir des liasses de formulaires. La moindre autorisation pour interroger un vieux témoin ou avoir accès à certaines pièces de procédure requérait une paperasse démente et se heurtait la plupart du temps à une fin de non-recevoir de la part du FBI qui avait la haute main sur les enquêtes criminelles les plus intéressantes. Sans regret, elle avait fini par quitter ce job pour revenir vivre en Angleterre. Elle s'en voulait même d'avoir joué les prolongations si longtemps, car depuis que Jonathan l'Empereur, l'homme qu'elle avait aimé et suivi à Manhattan, était retourné vivre avec sa femme, plus rien ne la retenait vraiment aux États-Unis.
Marjolaine et moi attendons un bébé pour le printemps, confia soudain le fleuriste.
Cette révélation tira Madeline de ses pensées.
Je suis très heureuse pour toi,
articula-t-elle en essayant de mettre de la joie dans sa voix. Mais sa réaction sonnait faux, à tel point que Takumi enchaîna sur autre chose.
Tu ne m'as toujours pas dit ce qui t'amenait à Paris, Madeline?
Des choses et d'autres,
répondit-elle d'un ton évasif.
Si tu veux passer le réveillon de Noël avec nous, à la maison, tu es la bienvenue.
C'est très gentil, mais je ne préfère pas. Ne m'en veux pas, mais j'ai vraiment besoin d'être seule.
Comme tu voudras.
Un nouveau silence, pesant. Madeline ne relança pas la conversation. Le nez à la fenêtre, elle essayait de retrouver ses marques, s'efforçant de rattacher chaque lieu à un souvenir de sa vie parisienne. La place de la Madeleine lui fit penser à une exposition à la Pinacothèque consacrée à Dufy. La rue Royale lui rappelait un bistrot qui faisait une blanquette de veau à tomber. Le pont Alexandre III restait associé à un accident qu'elle avait eu un jour de pluie lorsqu'elle conduisait sa moto.
« Tu as des projets professionnels ?»
insista Takumi.
« Bien sûr, »
mentit-elle.
Et tu as revu Jonathan récemment ?
Occupe-toi de ton cul.
Bon, c'est fini ton interrogatoire. C'est moi la flic, je te signale.
Justement, tu n'es plus flic, si j'ai bien tout suivi.
Elle soupira. Le jeune maladroit commençait vraiment à lui taper sur les nerfs.
Ok, je vais être franche, dit-elle. Je veux que tu arrêtes avec tes questions. Tu étais mon apprenti et je t'ai revendu mon business, ça ne te donne pas le droit de m'interroger sur ma vie.
Tandis que sa fourgonnette traversait l'esplanade des Invalides, Takumi regarda Madeline de biais. Elle était restée telle qu'il l'avait connue, avec son caractère frontal, son gros blouson de cuir, ses mèches blondes et sa coupe au carré un peu old school. Encore en colère, Madeline baissa la vitre et alluma une cigarette.
« Sérieusement, tu fumes toujours ?»
la sermonna le fleuriste.
« Tu n'es pas raisonnable. »«
Ta gueule !»
répondit-elle en recrachant une volute de fumée dans sa direction pour le provoquer.
« Non, pas dans ma voiture. J'ai pas envie que ma camionnette empeste le tabac. »
Madeline profita que l'estafette venait de s'arrêter à un feu pour attraper sa valise et ouvrir sa portière.
« Mais Madeline, qu'est-ce que tu fais ?»«
J'ai passé l'âge de me taper des leçons de morale à 3 balles. Je continue à pied. »«
Non, attends, tu... »
Elle claqua la portière et partit à grandes enjambées, seule, sur le trottoir de la rue de Grenelle. La pluie tombait toujours aussi fort.